Bonjour, nous sommes le mercredi 20 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
La Belgique est accusée par certaines instances européennes de vouloir torpiller le projet de directive sur la restauration de la nature. Le cabinet de Croo est critiqué pour un lobbying un peu trop appuyé. Unilever se met au régime, le groupe agroalimentaire supprime 7500 postes de travail et vend ses marques de crème glacée comme Ben & Jerry, Magnum ou Carte d'Or. L'Europe veut doper son secteur biotechnologique, notamment grâce à un accès au financement spécifique, une sorte de Nasdaq des valeurs biotech. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le brief.
Le brief, c'est info, dès 7h.
À la conquête de la France, la plateforme belge de mise en relation entre prestataires de services et particuliers, Ringtwice, vient de s'emparer de son équivalent outre-quiévrin, Frisbees. C'est sa première acquisition et cela représente 700 000 utilisateurs en France. Une belle opération. Ringtwice avait déjà essayé il y a quelques années de s'implanter de l'autre côté de la frontière, sans succès. Alors pourquoi ? J'ai posé la question à l'un des fondateurs et CEO de Ringtwice, Jonathan Schockart.
C'est vrai qu'en 2016, on avait essayé de se développer à l'international, en France et même, je dirais plus particulièrement à Paris. L'époque était effectivement complètement différente d'aujourd'hui et nous, notre produit ne répondait pas suffisamment aux attentes du marché français au niveau des prestataires. Donc on a eu du mal à les garder actifs sur la plateforme. Il fallait d'abord qu'on retravaille sur notre business model, sur le marché belge pour augmenter la rentabilité du business. Et donc, on a décidé de couper le marché français pour retravailler sur notre business model, ce qui nous a permis dès 2019 d'atteindre la rentabilité.
Alors aujourd'hui, c'est un renouveau pour Ringtwice. Après avoir réduit ses coûts et ses effectifs il y a près d'un an, la plateforme se relance donc avec cette acquisition. L'acquisition de Frisbees lui permet d'atteindre 1,3 million d'utilisateurs et renforce surtout son expertise avec un échange d'expérience entre les deux plateformes.
C'est assez intéressant de voir qu'ils ont développé le projet il y a 10 ans aussi. Comme nous, ils ont travaillé sur les mêmes problématiques. Il y en a où ils ont abordé les choses de la même manière que nous et d'autres complètement différentes. Et ils ont pris des meilleures décisions que nous à certains points et nous des meilleures qu'eux sur d'autres points. Pour en citer quelques-uns, par exemple, c'est assez impressionnant, mais leur algorithme de matching, donc pour mettre en contact le bon prestataire avec le client quand il y a une demande, dans 99% des cas, ils ont beaucoup d'offres. Alors que nous, en Belgique, on est à 80% des cas où il y a au moins une offre dans les 24 heures. Si on regarde de l'autre côté, par exemple, nous, on a 40% de notre business qui vient de ce qu'on appelle la récurrence. Donc, c'est le même client qui refait appel au même prestataire via la plateforme, ce qui n'existe pas chez eux. L'idée, c'est de prendre un peu le meilleur des deux mondes, mais évidemment, sans être naïf et sans imaginer qu'il y a une solution parfaite, d'apprendre un peu de chacun de l'un de l'autre.
Et toutes les opérations de Ringtwice resteront gérées depuis Bruxelles. Premier pas en bourse pour Reddit aujourd'hui aux États-Unis. C'est l'une des IPO les plus attendues de l'année. Le réseau social semble bien parti pour faire une entrée réussie. L'offre a été sursouscrite 4 à 5 fois, ce qui fait que l'entreprise atteindrait la valorisation espérée de 6 milliards et demi de dollars. On devrait donc se situer dans le haut de la fourchette du prix d'introduction entre 31 et 34 dollars, mais pas sûr que le cours évolue dans le vert tout de suite. En effet, Reddit suscite encore la méfiance de certains investisseurs qui parieront donc à la baisse. Ils reprochent à l'entreprise de ne pas être rentable. Lancé il y a 19 ans, le réseau social promet d'atteindre le seuil de rentabilité cette année seulement. Hier soir, la bourse de New York a fini en hausse dans le sillage des gains du géant des semi-conducteurs Nvidia, alors que les investisseurs se préparent au communiqué de la Réserve fédérale américaine qui bouclera aujourd'hui sa réunion de deux jours de politique monétaire. Le Dow Jones a gagné 0,83% et le Nasdaq avance de son côté de 0,39%. Tokyo est fermé aujourd'hui, mais le yen reste sous pression. La monnaie japonaise est à son plus bas niveau face à l'euro. Unilever se met au régime, un régime sans crème glacée. Le géant anglo-américain de l'alimentation et de l'hygiène prévoit de se séparer de cette activité dont les ventes ont déçu l'an dernier. Elle comprend les marques Ben & Jerry's, Magnum, Cornetto, Carte d'Or La branche générait un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2023. Pierre-Alexandre Billier, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes le CEO de Gondola, spécialiste du retail. Le groupe annonce aussi la suppression de 7500 emplois pour réduire ses coûts. Alors, Unilever qui se prive de dessert, c'est pour se recentrer, être plus réactif, c'est ça ?
Alors, on voit que grand nombre de multinationales sont en train de se spécialiser et pour cela quittent le modèle de conglomérat, puisque grand nombre de multinationales dans les biens de consommation vendaient aussi bien des glaces que des rasoirs, que des shampoings. Et donc, cette spécialisation dont on a tant besoin aujourd'hui, au niveau de la distribution, mais aussi du côté du producteur et de l'industriel, nécessite une réorganisation, une hyperspécialisation tant au niveau local que multinational. Et c'est ce que vise, en tout cas aujourd'hui, cette réorganisation. Outre l'optimisation des coûts, c'est plus spécifiquement une spécialisation, une réorganisation des activités commerciales.
Mais Unilever prend quand même un risque en vendant quelques marques très fortes.
Ce qui pourrait poser question, c'est effectivement Magnum qui a été vraiment un cash-cow pour l'entreprise en chiffre d'affaires, mais surtout en marge. C'est peut-être une marque qui a, je dirais, atteint son seuil de rentabilité et de croissance maximale. Et peut-être que la revente serait plus rentable que l'exploitation continue avec des nouveaux parfums à l'infini de ce type de marque. Mais c'est un réel pari parce que vendre une marque phare comme Magnum représente un grand risque aussi, un changement fondamental que je trouve très osé puisqu'il représente plus de 11% de chiffre d'affaires, mais en bénéfice, ces marques contribuent pour bien plus. Ça reste un grand pari pour l'entreprise.
Merci Pierre-Alexandre Billet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un passage éclair. Deux jours après son entrée, le transporteur maritime pétrolier Euronav quitte déjà le Belvin. La faute à son capital flottant, c'est-à-dire les actions librement négociables en bourse. Il est passé en dessous de la barre des 15%, condition indispensable pour figurer dans l'indice. En effet, à l'issue de l'offre publique d'achat lancée il y a quelques semaines, le groupe CMB et la famille Savrys détiennent à présent près de 89% d'Euronav. Cette opération sonne d'ailleurs un peu comme un aveu d'échec pour la famille Savrys qui a été contrainte de lancer cette offre après avoir dépassé le seuil des 30% du capital. Sa stratégie de verdissement de la flotte ne semble pas avoir convaincu les actionnaires du groupe qui ont profité de l'occasion finalement pour vendre leurs titres en masse. Et quant au Belvin, eh bien, il devient le Bel 19 jusqu'à la prochaine réunion de révision le 22 juin. Un sérieux candidat pourrait remplacer Euronav, il s'agit de Colruyt. Comment doper et surtout ancrer le secteur des biotechnologies en Europe ? La Commission présente un plan aujourd'hui pour affiner sa stratégie. Elle va lancer par exemple une étude pour examiner les moyens de financement, comment soutenir les fonds d'investissement qui pourraient apporter des capitaux et quels sont les obstacles. On sait aussi que parmi les pistes qui circulent, il y a celle de la création d'un marché boursier spécifique, une sorte de Nasdaq européen en fait, Olivier Gosset.
Bonjour Laurent.
Bonjour. Comment l'Europe peut-elle faire en sorte de garder ses pépites sur le continent et qu'elle ne file pas se faire coter finalement outre-Atlantique ?
Alors, on le sait, le premier problème est celui de la fragmentation des marchés de capitaux en Europe, qui se traduit par la présence de nombreux fonds d'investissement, mais qui sont de petite et de moyenne taille, qui investissent principalement au niveau national. Alors, pour financer les entreprises de biotechnologie, l'Europe a cruellement besoin de fonds pan-européens qui sont plus importants et plus profonds. La deuxième contrainte actuelle pour le financement est celle des marchés boursiers. En Europe, malgré les regroupements intervenus, ces marchés restent dispersés entre les États membres, d'où l'idée de créer un marché boursier biotechnologique à l'échelle européenne. Il s'agirait en réalité d'intégrer les grands marchés boursiers comme Euronext ou Deutsche Börse dans une plateforme commune high-tech et biotech. Cette espèce de Nasdaq européen à forte connotation biotechnologique serait un des moyens de retenir en Europe les sociétés des sciences du vivant qui sont effectivement nombreuses à se faire coter outre-Atlantique.
Mais rassurez-nous, il n'est pas trop tard pour concurrencer les Américains ou les Chinois. Ils ne vont pas se faire damer le pion.
Alors non, Il n'est jamais trop tard, les compétences sont là, notamment en Belgique et en Wallonie, où on dispose d'un écosystème extrêmement performant. Mais dans le domaine de la santé, par exemple, on sait que ce sont les États-Unis qui dominent largement. La Chine, quant à elle, dans le domaine agricole, n'a pas eu la même réserve que l'Europe sur les organismes génétiquement modifiés, et elle s'intéresse, par exemple, énormément en matière de soins de santé aux nouvelles thérapies cellulaires et géniques. Il faut donc réagir.
Merci Olivier. Le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo est accusé d'avoir fait du lobbying contre l'adoption finale de la directive sur la restauration de la nature au sein de l'Union européenne. Deux sources diplomatiques européennes l'affirment, mais les principaux concernés nient. Le cabinet du Premier ministre reconnaît des contacts, mais refute absolument avoir fait pression sur les autres dirigeants alors que la présidence européenne de la Belgique bat son plein. La réglementation en question vise à restaurer des habitats naturels dégradés. C'est la plus importante initiative législative en la matière depuis des décennies. Le texte doit être examiné lundi en Conseil des ministres européens de l'environnement, mais pour le moment, une majorité en sa faveur est loin d'être acquise. Par conséquent, ces soupçons qui pèsent sur la Belgique jettent encore un peu plus le flou sur l'obtention d'un consensus. Dommage, car la présidence européenne de la Belgique était jusqu'ici, peut-on dire, un sans-faute, Frédéric Roard.
C'est sûr que jusqu'à présent, la présidence est très efficace, reconnue comme telle. Et ici, on est face à une affaire problématique dans le sens où c'est un cabinet, le cabinet du Premier ministre, qui, en coulisses, exprime des positions. Évidemment, elles ne sont pas publiques, mais qui, selon des sources diplomatiques, vont à l'encontre de l'adoption d'un texte. Alors, l'usage d'une présidence est vraiment de rester en retrait et de chercher à parvenir à des compromis et non pas à des blocages. C'est un texte qui est extrêmement sensible, un texte sur lequel la Belgique n'a pas de position consolidée, puisque ces entités ne sont pas d'accord entre elles, et même au sein du gouvernement fédéral, les positions sont ambivalentes. Et le fait que la Belgique intervienne d'une manière ou l'autre, ou laisse penser qu'elle intervient pour freiner l'adoption du texte, pour l'en empêcher, est en soi problématique. Et ici, cette simple formalité est en train de se transformer en problème politique et problème de confiance potentiellement très important entre le Conseil et le Parlement.
La marque belge de vélo connecté Cowboy lance un nouveau modèle baptisé Cross. Il veut cibler un public plus large et moins urbain. Alors présenté comme confortable, touche-main avec une suspension de tige de selle et des roues de plus gros diamètre, il doit permettre d'élargir la gamme. Cowboy, qui a été en butte à des difficultés financières, vise la rentabilité cette année. Son nouveau modèle est en vente et en pré-vente dans un réseau de 200 magasins de vélos. Son prix de lancement est de 3 499 €. S'il vous arrive de faire quelques achats en ligne, sachez que vous n'êtes pas les seuls. On est même d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire. Les achats en ligne en Belgique ont grimpé de 10,7% en 2023 par rapport à l'an dernier. C'est ce qui ressort du baromètre annuel de Bicom, la Fédération belge de l'e-commerce. Les consommateurs belges ont dépensé 16,3 milliards d'euros en ligne, dont 5,5 milliards sur des plateformes étrangères. Merci à Guillaume Cordeau qui a préparé cet épisode. On se retrouve demain ? Allez, tant mieux, alors même endroit, même heure.